France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Réunir quelques intellectuels pour commenter l'actualité de la semaine à bâton rompu. Tel était le principe de la conversation du samedi de la Tribune de Paris. De théâtre et de grippe, de mondanité autour du théâtre, il pouvait être question le 15 janvier 1949 sur la chaîne nationale. Mais bien vite, un genre littéraire entrait en scène, le fait divers. Puisque la grippe rôdait, la période était propice à la lecture attentive et fiévreuse des journaux de toutes sortes.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Comme samedi dernier, comme chaque samedi désormais, cinq personnalités du monde des lettres et des arts vont confronter leurs impressions et leurs réflexions sur la semaine à Paris.
Autour du micro sont réunis
André Mauroy de l'Académie française,
Gérard Boer de l'Académie Goncourt,
Roland Manuel,
André Chanson
et Claude Mauriac.
Émile Dana va ouvrir l'entretien.
L'événement de la semaine, messieurs, c'est une maladie, c'est la grippe. Et le spectacle de la semaine, c'est un médecin, c'est Knock. Vous me disiez, André Mauroy, que vous aviez vu Knock à la création, il y a 25 ans, et que vous avez assisté à sa reprise.
Hier soir, j'ai vu Knock, et j'ai trouvé que la pièce, que j'avais déjà vue 4 fois, au moment de la création et plusieurs fois dans l'intervalle, tenait vraiment très bien. C'est une pièce qui maintenant est installée dans le répertoire français, et qui durera, je crois, comme Le médecin malgré lui. Le public y prenait un plaisir constant. Jouvet était vraiment remarquable. Il le joue maintenant en farce. Il a adopté l'idée que c'est le médecin malgré lui. Il ajoute beaucoup de gestes et de jeux de scène très moliresques.
Mais il se lave toujours les mains avec beaucoup de savon.
Toujours, oui. C'était une salle très, très brillante, naturellement, puisque c'était un gala de 25e. Il y avait Monsieur Auriol qui s'amusait beaucoup, qui riait énormément. Et ce qui m'a intéressé, c'est que les médecins qui m'entouraient s'amusaient beaucoup aussi. Il y a d'ailleurs eu un discours sur la scène fait par le fils de Tristan Bernard, qui est médecin, et qui a expliqué que le docteur Knock était au fond un membre extrêmement utile de la profession. Et que le corps des médecins l'accueillait avec joie.
André Chanson. Eh bien, moi, j'ai eu le déplaisir de ne pas pouvoir aller à la représentation de Knock. Et ma femme et ma fille, qui y sont allées à ma place, sont rentrées en me disant que j'avais eu grand tort parce que j'avais passé ma semaine dans la grippe. Et c'est aujourd'hui ma première sortie. Et elles pensaient que si j'étais venu voir Knock hier, j'aurais été tout à fait guéri.
Par le docteur Knock.
Par le docteur Knock et l'atmosphère et l'ambiance. Mais moi j'ai des regrets et des remords parce que la semaine dernière André Mauroy avait eu la grippe, il était le représentant de la grippe au milieu de nous, ce que je suis cette semaine,
diable.
Mais j'ai l'impression, diable du genre, ouais, j'espère que nous ne nous transmettrons pas le flambeau, mais j'ai l'impression que ma semaine de grippe a été moins studieuse que la sienne. Cependant, j'ai fait un effort méritoire, j'ai repris Mérimée.
Ce n'est pas si méritoire, c'est agréable.
Agréable, mais pour un homme qui est au fond de la grippe, ma tendance était plutôt de prendre le journal et de lire les faits divers. Je dois dire du reste que les faits divers à l'heure actuelle sont une lecture qui me paraît, je ne dirais pas passionnante, mais presque vertigineuse. Enfin, elle crée une espèce de vertige. Je ne voudrais pas jouer les gérantes, avoir l'air d'un homme déjà vieillissant, puisque du reste autour de cette table il y a des hommes qui sont mes aînés, mais il y a des moments où on a l'impression vraiment qu'on ne comprend plus très bien la jeunesse qui vient derrière nous. Il y avait cette semaine des faits divers qui pour un romancier en particulier étaient des faits divers tout à fait extraordinaires, cette jeunesse qui vit à côté de ses parents, d'une vie que les parents ignorent, sur un plan de mensonges extraordinaires, mensonges aboutissant quelquefois à des drames formidable. Du reste, je crois que dans la littérature, nous avons bien des exemples de romans à l'heure
actuelle. Vous avez les faux monnayeurs.
Oui.
Les faux monnayeurs étaient au fond, à l'origine des faux monnayeurs, il y a un fait divers de ce genre.
C'est André Mauroy qui vient d'intervenir. Gérard Boer.
Eh bien, sur cette question des faits divers, est-ce qu'ils étaient bien rédigés, ces faits divers? Parce qu'on vient de publier le livre de Fénéon, le livre des œuvres de Fénéon, et l'éditeur a repris ce qu'il avait créé dans le journalisme d'il y a 40 ans, c'est-à-dire la nouvelle en trois lignes. Fénéon, avec un art extraordinaire et comique parfois, et cynique aussi, car il a été renvoyé du matin à la suite du trop grand succès de ces faits divers en trois lignes, résumait les événements en trois lignes d'une façon parfois caustique, mais aussi très morale. Et je me souviens, j'étais à ce moment-là dans les journaux, un jeune débutant, on m'avait chargé à l'Écho de Paris de rédiger aussi des faits divers en trois lignes. Et je me rappelle qu'un fait divers que j'ai eu à rédiger comme cela était celui d'un malheureux boucher qui, en découpant un bœuf, s'était fait une horrible blessure. Et j'avais mis un tel boucher à la Villette, découpe un bœuf, son couteau glisse et le voilà lui-même diminué à l'Hôtel Dieu. Et ce petit fait divers en trois lignes agita beaucoup les lecteurs de l'Écho de Paris, je ne sais pas encore pourquoi.
Mais cher Gérard Boer,
c'est Roland Manuel qui parle.
On pourrait faire une réflexion. Vous venez de définir le fait divers pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un genre littéraire. Or, précisément, quand on lit, comme le fait M. Chanson, les faits divers, et qu'on pense y trouver, comme je pense y trouver moi-même, de ces renseignements qui sont les renseignements les plus objectifs, au fond, et les plus intéressants sur ce qui se passe aujourd'hui, car ça n'est certainement pas dans l'éditorial des journaux que nous connaissons la réalité de la ville aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les faits divers. Mais si le fait divers est un genre littéraire, est-ce que nous pouvons nous faire une opinion des mœurs d'après les faits divers du journaux? Car là intervient justement le goût de celui qui les choisit, de celui qui les monte en épingle. Est-ce qu'à toute époque, tous les crimes qui nous épouvantent aujourd'hui n'ont pas existé? Est-ce que les mœurs changent?
André Chanson, je vous en prie.
Il y a tout de même une chose, je crois, qui est certaine, c'est que la délinquance, ce que les spécialistes appellent la délinquance, et qui statistiquement peut se fixer sur certains âges, eh bien, a tendance à se fixer à l'heure actuelle sur les âges les plus tendres. C'est-à-dire que, d'après des spécialistes à qui j'ai parlé, la proportion des délinquants de 14 à 20 ans a augmenté énormément par rapport à l'avant-guerre. Et là, nous sommes sur un élément tout de même sérieux et pathétique, devant lequel nous sommes à la fois un peu éperdus, et aussi devant lequel, je dirais, lorsqu'on réfléchit, on se sent quelques responsabilités, peut-être.
Claude Mauriac.
En tout cas, de telles questions méritent, à mon sens, d'être traitées avec gravité. Tout à l'heure, Gérard Boer, vous parliez de Fénéon. Je l'ai lu aussi, je trouve ça très amusant, mais justement un peu trop amusant. Justement, cette semaine, il y a aussi un fait divers, moi, qui m'a frappé, et d'autant plus que j'ai été amené à témoigner à propos de cette affaire. Il s'agissait de deux personnes qui étaient soupçonnées, accusées d'avoir participé à une cour de justice de la milice, accusation donc très grave, non prouvée dans les deux cas, et le verdict sera rendu ce soir, je ne sais pas ce qu'il sera, mais de toute façon, ce qui m'a frappé, c'est la légèreté avec laquelle la plupart des journaux ont eu l'air de poser le problème résolu avant qu'il soit jugé. Ces deux personnes défendaient beaucoup plus que leur liberté, ils défendaient leur honneur, et on avait l'air, parce qu'ils étaient au banc des accusés, de dire au départ qu'ils étaient coupables.
Gérard Boer.
Mais ça, ce n'est pas un fait divers, c'est une affaire de justice. Je vous assure que devant la justice, Fénéon avait un état d'esprit, il avait eu à pâtir lui-même de la justice, ou plutôt de la fausse justice, il avait un état d'esprit rigoureux. La question posée par Roland Manuel tout à l'heure est plus importante. Il dit simplement ceci, est-ce qu'il n'y a pas une façon particulière de monter les faits divers? Si, il y en a une. Le fait divers est un genre littéraire, disait Roland Manuel. Je ne le crois pas, et il serait bien difficile à des littérateurs d'écrire tous les soirs des faits divers. Je me souviens, puisque j'évoque des souvenirs, avoir demandé à Jules Lemaitre de rédiger un fait divers à l'Écho de Paris, il en a été incapable.
Oui, mais
Gilles l'a fait. Oui. Oui.
Je vous répondrai par l'exemple de Fénéon, justement. Oui. C'est Fénéon qui en a
fait
un genre
littéraire. C'est Roland Manuel qui répond.
Mais à l'heure actuelle, n'est-ce pas, il y a évidemment un procédé de journalisme pour présenter tous les événements, aussi bien le scandale que le fait divers, un procédé sensationnel et assez souvent peu honnête. Et alors ici, je reviens vers Claude Mauriac pour lui donner raison sur ses scrupules, sur son inquiétude, même à voir les choses présentées comme elles le sont.
André Mauroy.
Bien, je voudrais dire à Claude Mauriac qu'il a absolument raison et que dans les pays anglo-saxons, il est rigoureusement interdit par la loi de porter un jugement quelconque sur une affaire tant qu'elle n'a pas été jugée par la justice.
Oui, mais c'est...
Ce n'est que justice.
Oui, mais les journaux anglo-saxons, je connais bien la question, je m'y intéresse en ce moment parce que je trouve précisément que la presse adopte un ton un peu trop scandaleux pour signaler certains événements et certains événements d'ordre privé. Les journaux anglo-saxons ne sont pas exempts de ces exagérations. Ils viennent de monter une affaire qui concerne une star et un prince, et leurs journaux du dimanche en sont remplis, à tel point que ce jeune prince ne peut plus aller ni en Suisse, ni nulle part, sans avoir une meute de reporters à ses trousses. C'est un abus.
Oui, ça c'est un abus. Oui, et n'oublions pas la publicité du divorce aussi, en pays anglo-saxon.
André Mauroy.
En fait, la seule manière de donner aux faits divers sa vérité et sa profondeur, c'est le roman. Parce qu'alors on peut aller jusqu'au motif, jusqu'au mobile des personnages. J'ai lu cette semaine un roman que je trouve tout à fait remarquable d'un jeune homme, Gilbert Cesbron, Notre prison est un royaume. Et c'est justement un roman sur la vie des adolescents dans les lycées, avec un suicide d'adolescent qui rappelle énormément celui qu'avait écrit Gide.
Ah oui, dans les Faux-Monnayeurs.
Les Faux-Monnayeurs, oui.
Bertien Gide, justement, je l'ai eu la grande joie de le rencontrer par hasard avant-hier à la brasserie Lip.
C'est Claude Mauriac qui parle.
J'étais en train de passer, je me suis senti appelé et je l'ai vu, qui était avec des amis, avec une mine excellente.
Il va bien ?
Il va tout à fait bien. J'en ai quelques mots avec lui. Et c'était justement la seule vedette qui, le même soir, ne se trouvait pas au cocktail qui a été donné par Marcel et Juliette Achard pour Jean de la Lune.
Gérard Bauer.
Eh bien, c'était un charmant cocktail, et un charmant cocktail pour les gens qui avaient assisté à la première de Jean de la Lune en 1929, c'est-à-dire il y a exactement 20 ans. Ils se souvenaient du trio qu'avait formé Jouvet, que nous avons déjà nommé aujourd'hui, Valentine Tessier et Michel Simon, dans Marceline, Jeff, Jean de la Lune et Clotaire, Clo-Clo. Jean de la Lune qui venait 6 ou 8 mois après la première de Siegfried, c'est-à-dire la première, l'arrivée au théâtre de Jean Giraudoux, a marqué une saison ravissante de la vie parisienne à ce moment-là et du théâtre. Jean de la Lune a déposé dans nos souvenirs quelque chose d'infiniment gracieux. Et voilà sa seconde épreuve au cinéma que Marcel Achard célébrait au milieu d'une nuée de vedettes. Je n'en ai jamais vu autant.
Jamais.
Et elles arrivaient, et j'ai été surpris d'une chose. Et alors là, j'interrogerai mon jeune ami Claude Mauriac. J'ai été surpris d'une chose. Combien ces personnes, lorsqu'on les voyait de près, il y en avait quelques-unes que je connais déjà depuis quelque temps, étaient différentes de ce qu'elles nous apparaissent sur l'écran, n'est-ce pas? Très peu conservent même le même visage. C'est plutôt quand on les approche de près qu'elles sont des vedettes, et à l'écran qu'elles sont naturelles. C'est d'ailleurs très bien comme ça, mais est-ce que vous n'en avez pas été frappé, Claude Mauriac?
Peut-être, mais moi ce qui m'a surtout frappé, c'est leur uniformité, non pas à l'écran en effet, mais alors quand elles sont réunies dans une même salle.
Elles sont raclées, elles ont toutes
la même coiffure actuellement, courte, blonde et courte, le même fond de teint rose, et naturellement le même manteau de vison. Oui. Il y avait que quelques décapions près, les plus jeunes. Naturellement, Cécile Aubry n'avait pas de manteau de vison, mais autrement...
Oui. Manon n'a pas de manteau de vison.
Roland Manuel.
Donc, vous parliez tout à l'heure de Gide, qui n'était pas à cette réunion. Je n'y étais pas.
Il n'avait pas de manteau de vison.
Mais voulez-vous permettre aux musiciens de vous rappeler une chose qui peut-être n'a pas été très aperçue de vous-même? C'est que le dernier livre publié par Gide est un livre sur la musique. Ce sont ses notes sur Chopin. Ces notes sur Chopin qui n'étaient certainement pas inédites pour la plupart, mais dont, à quoi la réunion donnait quand même un prix extraordinaire pour nous. Et comme nous sommes toujours en guerre quand nous parlons musique, vous et nous, vous savez bien pourquoi, parce que nous vous accusons toujours, peut-être à tort, d'attraper la musique par les franges, eh bien je suis heureux d'honorer Angide, justement un littérateur qui a fait quelque chose de très extraordinaire. Un livre sur la musique et un livre sur Chopin, j'y insiste, où Chopin est enfin délivré de Madame Sand et de la Pologne héroïque et de tant d'autres choses, et où Chopin est étudié comme un musicien au départ des touches d'un piano. Je ne sais pas si vous avez entendu Gilles jouer du piano.
Moi, je l'ai entendu. C'est encore un souvenir.
C'est un grand maître. Et nous avons beaucoup à apprendre de lui. Je m'excuse de cette intrusion.
Non, mais ce n'est pas du tout une intrusion. C'est quelque chose de très important.
Quelle a été votre réaction à vous, musicien, autant de Jean-Christophe?
Autant de Jean-Christophe, j'étais en hostilité complète. Oui, parce que ce qui se produisait à ce moment-là, c'est que Romain Rolland représentait pour un jeune musicien un point de vue qui était inadmissible. Nous croyons en Debussy et en Ravel. Et il nous apportait une espèce de religion de la musique à quoi nous n'entendions rien. La musique était pour lui l'art de penser avec des sons, alors qu'elle était pour nous l'art de combiner les sons d'une façon agréable à l'oreille. C'était le moment où nous découvrions Debussy, et où Romain Rolland lui-même d'ailleurs nous disait, et il avait raison, « Je ne suis pas fou de votre musique française et je n'aime pas beaucoup votre monsieur Debussy, mais ce que je ne comprends pas, et ceci s'adressait aux critiques, c'est qu'ayant un grand musicien et un seul, vous passiez votre temps à dire du mal du seul que vous possédiez. »
Gérard Boer.
Je crois que M. André Gide a rendu un grand service s'il a délivré Georges Sand et Chopin de cet amour qui les ont ruinés l'un et l'autre, qui les ont fort agités. Je ne crois pas cependant qu'on puisse tout à fait les séparer. Vous nous avez dit spirituellement, Roland Manuel, que nous prenions la musique par les franges, mais si nous la prenions par la technique, vous auriez bien d'autres observations à nous faire que si nous la prenions sentimentalement.
Oui, s'il n'y avait pas de franges, il n'y aurait pas de musique.
Oui, et puis on prend tout toujours par les franges, la littérature aussi.
Claude Mauriac.
À propos de Georges Sand, j'ai trouvé sur les quais cette semaine l'édition originale de Elle et lui, qui m'a coûté la somme modeste de 150 francs, et je l'ai relue. Eh bien, je dois dire que c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais cru.
Oui, c'est extrêmement vivant, et c'est beaucoup mieux que lui et elle, de Paul Louis.
Roland Manuel.
Et lui et elle est beaucoup mieux que lui, de Louise Collet.
André Chanson.
Oui, mais ceci nous ramène aux faits divers. Et en définitive, tout à l'heure, lorsque nous en avons discuté, ce qu'on n'a pas dit, c'est que peut-être le fait divers est la petite substance par laquelle nous arrivons à appréhender la vie. C'est très difficile d'appréhender la vie. Et le fait divers est le petit fait par lequel nous attrapons le bout de la chose, nous tirons, et quelquefois, la vie, avec sa signifiance, vient derrière. Et j'ai dit il y a quelques minutes aussi qu'on prend toujours les choses par leurs franges. Eh bien, leurs franges, c'est quelquefois le fait divers. Mais ce qu'il y a de passionnant, c'est quand le fait divers se gonfle et devient significatif de toute l'existence réelle. Et c'est pour ça que cette semaine, au fond de mon lit, avec la grippe, lisant les journaux, je me disais, mais est-ce que vraiment il y a toute une jeunesse que tu ne connais pas et qui mène cette vie de mensonges et de mythes à côté de parents qui ne comprennent pas? Parce que tout de même, une certaine jeunesse, je l'ai connue il y a quelques années et j'ai eu l'honneur de commander sur le front des Vosges des jeunes gens qui m'apparaissaient être la jeunesse de la France. Et en particulier, je les revois, ces garçons encore. Ce sont des garçons qui n'ont le goût ni pour le mensonge, ni pour la violence. Et à côté de cela, dans la vie, le fait divers nous révèle qu'il y a toute une jeunesse qui a un goût pour le mensonge et pour la violence. Problème.
Problème, oui, mais est-ce que cela ne dépend pas des circonstances? Est-ce que les mêmes jeunes hommes, si vous les envoyiez à un front de combat, ne seraient pas des héros comme ceux que vous décrivez?
André Mauroy de l'Académie française, Gérard Boer de l'Académie Goncourt, André Chanson, Roland Manuel et Claude Mauriac ont échangé leurs impressions sur la semaine à Paris. Les mêmes personnalités se retrouveront samedi prochain à la même heure et à ce même micro.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
Cette Tribune de Paris a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 15 janvier 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.